Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h19, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Aurore Berger, députée de La République En Marche des Yvelines et présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée Nationale.
Oui, bonjour Aurore Berger.
Bonjour.
Le duel Macron-Le Pen, la bataille des retraites, la stratégie Macron pour séduire les mélenchonistes, notamment les thèmes de la campagne, autant de questions que nous allons essayer d'aborder. L'annonce d'abord d'Emmanuel Macron hier soir, de revoir éventuellement la réforme des retraites, c'est un petit coup de barre à gauche, c'est ça ?
Déjà, la première chose, c'est que le président de la République, parce qu'il est président et parce qu'il souhaite le rester, doit continuer à convaincre et à rassembler les Français. Et donc, sur la question de la réforme des retraites, il dit deux choses. Un, la détermination est intacte. On sait qu'on a besoin de transformer notre système de retraite pour sauver notre modèle de protection sociale et donc notre système par répartition. Pour permettre aussi d'avoir cette retraite minimale à 1100 euros pour tous les Français, parce qu'on sait bien qu'on a encore trop de retraités qui sont fragilisés au moment où ils arrivent à la retraite. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, c'est comment on y arrive ? Quelles sont les étapes ? Et c'est ça que le président de la République a dit hier. S'il faut une concertation plus large, s'il faut revoir la temporalité qui permette d'arriver à 64 et 65 ans, alors cette négociation, elle doit évidemment pouvoir s'ouvrir dans le dialogue.
Bon, d'accord. Donc c'est la souplesse pour, en même temps, on est en période électorale, donc pour ne pas froisser tout le monde.
Non,
quoi.
C'est d'abord démontrer qu'on est déterminé.
Déjà, ça fait 5 ans qu'il est là au pouvoir et il n'avait pas mené cette réforme.
Sur les régimes spéciaux, on a commencé.
C'est vrai.
Sur les régimes spéciaux pour la SNCF, tout le monde nous disait que c'est impossible. Peut-être que tout le monde a oublié que ça a été fait parce qu'on a réussi justement à mener cette réforme, mais ça a été conduit sur les régimes spéciaux de retraite de la SNCF. Donc ça veut dire que quand on est déterminé, on peut aller au bout d'une réforme, même si on sait qu'elle est difficile. On l'a démontré sur ce sujet, comme sur l'assurance chômage, comme sur le droit du travail, comme sur un certain nombre d'autres sujets. Mais oui, on est là pour rassembler et pour convaincre. Moi, je préfère qu'on conduise cette réforme à son terme, quitte peut-être à revoir son rythme, pour sauver encore une fois notre système de retraite, plutôt que de prendre le risque de dire, voilà, c'est un dogme, on est inflexible, on ne bougera pas.
Ouais.
La vraie différence par rapport à Marine Le Pen, c'est qu'elle, elle est dans une arnaque très claire sur le système de retraite aujourd'hui. Elle vous dit, brave Jean, dormez tranquille, il n'y a pas de problème.
Pourquoi ? Parce qu'elle va à 62 ans, propose la retraite
non,
à 62
non seulement,
ans.
C'est ça.
Et initialement, c'était 60 ans, et maintenant, c'est
alors,
62 ans.
C'est pas exactement ça qu'elle
oui,
dit. C'est 62 ans, mais pour un certain nombre de Français, ce sera même 60
progressif,
ans.
Progressif, oui.
Ce sera même 60 ans.
Oui.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tous les pays européens, y compris sociodémocrates, socialistes, écologistes, qui font en sorte, pour sauver leur système par répartition, leur système de retraite, d'être à 65, pour certains même 67 ans. C'est pas ce qu'on propose.
Oui.
Elle a dit carrément, c'est de l'arnaque, enfin, c'est un mensonge.
Elle sait pertinemment qu'elle ne pourra pas le financer.
Mais
Emmanuel Macron va le proposer également pour certaines professions
non, là,
où il y a de la pénibilité. Finalement, c'est la même chose.
Non, ça n'est pas la même chose de dire ce sera 62 ans pour tout le monde, là où nous on dit il faut évidemment qu'on puisse prolonger un peu si on veut continuer à financer notre système et à faire en sorte que personne ne parte avec moins de 1100 euros et de dire carrément, en plus, il y a un petit bonus, ce sera carrément 60 ans pour un certain nombre de Français. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire
que soit demain, il y aura de l'impôt déguisé, elle ne le dit pas, mais elle augmentera les impôts pour le financer, soit, je le dis aux retraités, elle baissera les pensions de retraite pour le financer.
C'est pas ce qu'elle a promis.
Mais elle n'a pas dit comment elle le finançait.
Oui.
Comme la plupart d'ailleurs de ses propositions, on ne sait pas comment elle les finance.
Si on rentre dans les détails, évidemment, 50 milliards d'euros par an pour Emmanuel Macron, 68 milliards. Hein, ce sont les chiffrages pour Marine Le Pen. C'est vrai, un peu dans chaque programme, quand on regarde, il y a des incertitudes sur le financement, même pour votre candidat. Puisqu'il s'appuie sur une croissance qui doit être forte.
Qui est forte.
Oui.
Qui est forte aujourd'hui, de manière
aujourd'hui,
très claire. Et qui est forte pourquoi ? Pourquoi on a une reprise économique qui est intense ? Parce qu'on a assumé, pendant la crise, de ne pas lâcher les Français. Parce qu'on a assumé de faire de l'activité partielle. Parce qu'on a assumé un quoi qu'il en coûte.
Et
qui
un
fait qu'aujourd'hui,
oui, un
on
n'a
pas. Mais qu'est-ce qui se serait passé si on
n'avait
pas
fait ? Avec un remboursement qui est prévu après le quinquennat d'Emmanuel Macron, 2026.
Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas fait le quoi qu'il en coûte ? On n'aurait pas le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. On aurait au contraire une explosion du chômage. Ça nous coûterait socialement, ça nous coûterait, j'allais dire même moralement, mais ça nous coûterait aussi économiquement de devoir évidemment soutenir tous les Français au chômage. Ça nous coûterait des faillites d'entreprises en cascade, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Vous avez vu, ça reprend là en fait. Hein, 10 000 faillites, quoi. Alors qu'évidemment, il y avait eu.
On a un rythme qui est bien moins important qu'avant même la crise.
Ça, c'est vrai.
Qu'avant même la crise.
Oui.
Et on a même recréé de l'emploi. Et c'est ça qu'il faut dire en français.
Oui.
On a réussi à faire en sorte que celles et ceux qui étaient les plus éloignés de l'emploi retrouvent une activité professionnelle. Et c'est ça que veulent les Français. Personne n'a envie de vivre de minima sociaux. Les Français veulent travailler. Et c'est ça qu'on a permis dans le quinquennat et c'est ça qu'on doit continuer à permettre dans le prochain.
Aurore Berger, sur le rassemblement, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, le chef de l'État veut rassembler. Hier, il est allé en fait à Denain. Il a été questionné sur je vais emmerder les non-vaccinés, etc. Alors il a répondu, il était un petit peu embêté en fait, hein, gêné aux entournures. Il a dit, bon, c'était affectueux. C'était vraiment affectueux à l'époque ?
Déjà, il est allé à Denain, c'est-à-dire il a fait le choix pour son premier déplacement d'aller dans une ville qui n'a pas voté pour lui.
Oui.
Marine Le Pen, elle fait l'inverse. Elle ne va que dans les villes qui ont voté pour elle au premier tour.
On verra la suite.
Ah bah écoutez,
non, mais on verra la suite. Elle était dans Lyon.
Le premier jour, c'était
Avignon.
Très caractéristique.
Oui, oui.
C'était très caractéristique. Donc ça veut dire qu'il fait le choix d'aller au contact des Français qui ne sont pas aujourd'hui convaincus par notre candidature et par notre projet. C'est ça, vouloir rassembler les Français. C'est d'abord aller parler, pas à ses partisans, pas à ses militants, pas à ses sympathisants. C'est aller convaincre ceux qui ne sont pas déjà des convaincus. Donc ça, c'est la première chose. Donc oui, il y a parfois de la friction, il y a parfois du débat. Et d'ailleurs, dans l'échange que vous mentionnez, il est resté plus de 20 minutes avec cette personne.
Oui,
Donc il n'a pas juste dit, bah, vous avez raison, allez, je passe à la prochaine personne et on enchaîne. Parce que certains se seraient, à mon avis, contentés de ça, de lui faire un gentil sourire, dire merci madame pour cet échange, et puis aurait enchaîné. Oui. Lui, il est resté,
J'ai vu quand même quelques témoignages en disant il manquait d'empathie, le chef de l'État. Est-ce qu'il faut qu'il change un peu pendant cette campagne ?
Déjà, on ne peut pas changer, je pense, qui on est. Mais oui. Le président de la République, il est évidemment empathique, il est sincère dans ce qu'il dit aux Français, parce qu'on peut éprouver ce qu'il a dit et ce qu'il a fait pendant 5 ans. On peut voir concrètement qu'il n'a jamais menti aux Français, qu'il ne les a pas arnaqués sur son projet. Que quand il a dit « voilà quelle réforme je vais mener » et qu'il l'a menée, c'est ça qui s'est passé pour le pays.
Il y a des réformes qu'il n'a pas menées, quoi. Alors après, il y a des circonstances ou pas, mais en tout cas, il n'a pas mené toutes les réformes.
Non, mais il n'y a pas eu d'arnaque, il n'y a pas eu de mensonge aux Français.
Non, mais
il a voulu tout annoncé avant pour faire au maximum après.
Quelles étaient les annonces avant 2017 ? Il n'y avait pas un programme
Il y avait tout le programme.
Il y avait les retraites.
Vous savez, le programme, il est encore en ligne aujourd'hui, le programme de 2017.
Bien sûr,
donc
justement.
Vous pouvez encore le consulter. Oui. Il y avait la réforme du droit du travail, on l'a fait. Il y avait la réforme de la SNCF sur les régimes spéciaux, on l'a fait. Il y avait la réforme sur la moralisation de la vie politique et plus de transparence pour la vie politique, on l'a fait. Il y avait la fin de l'exploitation des hydrocarbures dans notre pays, on l'a fait.
Résultat, on n'a plus d'hydrocarbures aujourd'hui.
Je pense qu'on a fait le bon choix écologique de dire que oui, on ne devait plus en France continuer à utiliser et à exploiter des hydrocarbures.
Bref, la taxe d'habitation, il l'avait promis. Et aujourd'hui, les taxes foncières augmentent dans toutes les communes. Vous avez vu, parce que ces communes aussi sont endettées.
Non, mais attendez. Ça, il faut gentiment confronter. Oui. Enfin, il faut confronter dans ces cas-là celles et ceux qui font le choix d'augmenter la taxe foncière, alors que vous pouvez demander à n'importe quel maire, de sortir concrètement ce qu'il touche de la part de l'État. Vous verrez que c'est compensé à l'euro près.
Oui,
à l'euro près pour la taxe
d'habitation. Évidemment, il n'y a pas de revalorisation aussi avec l'inflation en fait actuellement.
Non, mais attendez, il y a en tout cas une compensation à l'euro près de la taxe d'habitation. Donc celles et ceux qui font le choix. J'entendais ce matin qu'à Strasbourg, les élus écologistes faisaient le choix d'augmenter de plus de 12% la taxe foncière.
Il y a beaucoup de
communes,
en fait.
On n'a pas une inflation aujourd'hui, il me semble, à 12%.
8%
donc,
peut-être.
Donc, il y a quand même
un
choix politique. Il faut que les communes qui font ce choix l'assument et expliquent à leurs citoyens pourquoi ils le font. Mais ils ne peuvent pas mettre ça sur le dos de la taxe d'habitation.
Oui, ces 15 jours de campagne, ça va être projet contre projet ?
Mais oui, et c'est ça qui
est
nécessaire.
Et est-ce qu'Emmanuel Macron va mettre de nouveaux thèmes sur la table ?
Mais déjà, je pense qu'on a eu une campagne de premier tour où on a eu du mal, en vérité, à débusquer et dire quel était le projet du Front National. Et d'ailleurs, elle a rarement
du
été confrontée...
Du Rassemblement National.
Oui, Front National, le Rassemblement National.
Attendez, appelez La République En Marche
On n'a pas changé de nom pour essayer de s'adoucir ou de changer notre image. Ouais. Elle porte le même projet que celui du Front National.
Elle
a d'ailleurs été la dirigeante du Front National avant d'être celle du Rassemblement National.
Soyez honnête, le Front National, c'était un programme qui était beaucoup plus libéral. Il était beaucoup plus libéral avant, et là, en fait, il est beaucoup plus à gauche, quoi. C'est ce que disent certains. Ça ne vous a pas échappé non plus.
Ça ne vous aura pas échappé qu'elle en a été d'abord la présidente du Front National, avant de changer le nom du parti, pour essayer d'en adoucir l'image. Est-ce que pour autant le projet a changé de nature ? Est-ce que la préférence nationale a été supprimée des thématiques de campagne de Marine Le Pen ? Clairement absolument pas. Est-ce que la question européenne est devenue tout d'un coup différente? Absolument pas. Elle le dit à mot couvert. Oui. C'est ce qui s'est passé dans cette campagne. C'est un formidable art de la dissimulation, aidé considérablement en cela par Éric Zemmour. Il a été un adoucissant de la campagne de Marine Le Pen. Il était tellement brutal dans ses propositions, tellement infréquentable sur le fond de ses idées. D'ailleurs, heureusement, les Français s'y sont pas trompés.
Ah bah, il a eu quand même 7 à 8 % hein, pour un parti où il n'y avait enfin, rien précédemment.
Non, mais qu'il disait lui-même depuis le début de cette campagne, je serai la surprise et je serai au second tour et je battrai Emmanuel Macron. Oui. Il est heureusement très loin de ça, mais on a eu à cause de lui
mais
une
Marine
campagne
Le Pen a
de
quand
premier
changé,
tour qui
quoi.
A beaucoup tourné. Mais non, elle a pas changé.
Pas de sortie de l'euro. Elle a revu en fait les retraites. Elle est beaucoup plus sur l'aspect en fait social.
Non,
elle n'a pas mis en
pas
évidence.
Elle
n'a pas mis en évidence l'immigration. Pendant sa campagne, pas
bah
de la même
normal.
Manière qu'Éric Zemmour.
Elle a eu la chance d'avoir Éric Zemmour qui a fait le travail pour elle sur ces questions-là. Ouais. Et elle a juste eu à en ramasser les fruits en disant « Vous n'allez quand même pas choisir Éric Zemmour, vous voyez qu'il ne peut pas de toute façon arriver au second tour, donc vous avez intérêt à faire un vote utile d'extrême droite pour moi dès le premier. » C'est ça qui s'est passé. Est-ce que dans le projet qui est le sien, que vous pouvez trouver sur son site internet, ça a changé sur les enjeux d'immigration, sur les enjeux d'identité, sur les questions européennes? Absolument pas. Sur les questions écologiques, il y a rien dans son projet à part dire qu'il faut réduire les budgets sur les questions des énergies renouvelables et démonter
sur
les éoliennes.
Sur l'éolien.
Mais même baisser les budgets sur le renouvelable.
Ouais,
donc à un moment, non, elle n'a pas changé de nature ou de projet. Par contre, elle nous fait croire qu'elle a changé d'image. Mais une campagne présidentielle, ce n'est pas juste savoir qui est le plus sympathique des deux et avec qui on a envie de boire
un
verre.
Ça compte aussi.
C'est surtout savoir à un moment quel est le projet qui sera déployé
bien
pour
sûr.
Notre pays
bien
pour
sûr.
Les 5 années, mais qui va surtout compter pour les 15-20 prochaines années, les réformes qu'on met en place ou qu'on ne met pas en place.
C'est pour ça que, par exemple, elle insiste beaucoup sur le nucléaire. Vous dites, sur l'éolien. Bon, je ne sais pas qui a raison sur l'éolien, mais elle encourage aussi le nucléaire, comme Emmanuel Macron.
Mais évidemment qu'il faut encourager la filière nucléaire. Une certitude. Par contre, ce qu'on dit, et ce que disent toutes les personnes sérieuses sur ces sujets-là, sur les enjeux énergétiques, c'est qu'on doit promouvoir les deux. On doit à la fois continuer à investir sur le nucléaire, mais on doit aussi investir sur le renouvelable. Or, elle ne s'appuie que sur une des deux jambes. Donc, c'est complètement déséquilibré.
Non, elle parle aussi de rénovation des bâtiments. Hein, donc, c'est pas vrai, parce que ça passe aussi beaucoup, la transition écologique, par la rénovation des bâtiments, vous
nous,
le savez bien.
Nous, c'est ce qu'on dit sur l'accompagnement des Français, 700 000 logements rénovés chaque année, parce qu'aujourd'hui...
Bon, pour l'instant, les aides, c'est compliqué, en fait.
Non, ma prime rénov', vous avez des centaines de milliers de Français qui
vous
en
avez
bénéficient.
Déjà testé, vous avez essayé sur Internet, ma prime rénov'?
Moi, j'ai pas eu besoin d'en bénéficier.
Essayez, vous verrez.
Je peux vous dire que beaucoup de mes concitoyens l'ont fait.
Verrez.
Non, mais attendez, ma prime rénov', c'est quoi? C'est de dire qu'à un moment, on a des Français qui sont à la fois en précarité énergétique, en gros, ils sont dans les passoires thermiques. Donc, en plus, c'est à la fois un sujet écologique, mais c'est aussi un sujet social.
Ils sont en précarité. Et donc
parce
ils
que
ne
ça
peuvent
leur
pas
coûte
investir
beaucoup plus cher.
Ces sommes.
Donc l'État leur donne les moyens de les soutenir pour qu'ils fassent les travaux. C'est un enjeu écologique.
Vous
et
savez
social.
Combien, Aurore Berger, si par exemple vous voulez rouler en électrique et combien vous voulez, et si vous voulez installer des panneaux photovoltaïques par exemple sur votre maison, combien ça va coûter avec une pompe à chaleur au total?
Ça dépend de la superficie de votre maison
bien sûr,
pour une
bien
pompe
sûr.
À chaleur.
Mais
vous êtes entre 12 000 et 15 000 euros en moyenne sur un véhicule
et
électrique.
Alors c'est un petit, hein, évidemment. C'est un petit
en tout cas,
électrique.
Aujourd'hui,
quoi.
Un véhicule électrique, vous pouvez l'avoir. Et après, vous avez des aides et des bonus
bien
écologiques
au-delà,
et des bonus écologiques
au-delà,
qui
c'est bien au-delà
exister.
De 20 000. Non, mais si vous mettez en fait les deux, vous arrivez entre 70 000 et 100 000 euros. Voilà, je vous le dis, vous pourrez regarder.
Il y a peu de Français qui ont la possibilité et de faire des pompes à chaleur et de faire des panneaux photovoltaïques et de changer leur véhicule.
C'est
pour ça qu'il faut les accompagner.
C'est pour ça qu'il faut les accompagner.
Notamment sur le changement des véhicules et les rénovations thermiques, c'est ce qu'on fait.
C'est pour ça qu'il faut les accompagner et que, évidemment, pour l'instant, ce n'est pas du tout à la hauteur. Un regard quand même sur l'effondrement de votre ancien parti. LR et Valérie Pécresse. Quel est votre regard puisque vous étiez en fait au sein des LR?
Mon regard, c'est tout simplement qu'ils ne savent pas quel projet ils portent pour le pays et donc les Français ne peuvent pas le savoir à leur place. Donc ils ont fait d'autres choix. Et je crois que ceux qui appartiennent comme moi à une droite, qui est une droite libérale, européenne, républicaine, laïque, se sont tournés vers Emmanuel Macron. Ceux qui voulaient une droite identitaire, vraisemblablement, sont allés chez Éric Zemmour et peut-être qu'un certain nombre sont allés aussi dans un vote utile contestataire chez Marine Le Pen.
Les partis traditionnels n'ont plus leur place.
Oui. Mais c'est pas la question de parti traditionnel ou pas.
Ah si, parce que
il y a des partis
LR
plus anciens.
PPS, oui.
De facto, il y a des partis plus anciens aussi qui ont réussi à résister dans cette campagne électorale. Ouais. La question, c'est le projet qu'on porte. Ouais. Aujourd'hui, les LR ne savent pas quel est le projet qu'ils veulent porter.
Et Valérie
Pécresse en a été finalement l'un des révélateurs. La question, c'est
elle
pas Valérie
incarné,
Pécresse.
Elle n'a pas incarné une future présidente de la
Mais
République.
Mais elle
n'a
pas incarné
ça.
De ligne politique.
Ouais.
Au-delà de la forme, on en a beaucoup parlé, de la forme sur ses meetings, etc. Mais la forme, finalement, ça peut être accessoire. territoire quand le fond est présent. Mais il n'y a pas eu la clarté sur le fond de la ligne politique. Et je crois que les électeurs, c'est ça qu'ils ont noté tout au long de la campagne, et donc progressivement, ils se sont désengagés des LR pour aller vers d'autres partis politiques, mais surtout vers d'autres candidats. Et je crois qu'ils feront la même chose au moment des législatives, parce qu'ils ont besoin, on a besoin de clarté politique.
Donc les
on a
LR sont morts aussi pour politique. Les législatives, selon vous ?
Je crois que de toute façon, celui ou celle qui gagnera l'élection présidentielle, et je souhaite que ce soit Emmanuel Macron, évidemment, aura une majorité. Parce
donc
que
vous
je crois
dites
que les Français
aux LR,
sont
venez
cohérents.
Chez nous, quoi. La porte est ouverte.
Mais je le dis à tous les Français. Je dis à toutes celles
non,
et ceux
notamment,
qui partagent...
Non, mais notamment, on parlait des LR.
Mais je dis à toutes celles et ceux qui partagent notre projet politique, nos oui. convictions, notre même amour pour la France, évidemment, de nous rejoindre, comme on le fait depuis 2017. Et d'ailleurs, on est les seuls à avoir continué à s'élargir. Vous savez, en général, quand on est au pouvoir, il y a plutôt des gens qui vous quittent. Nous, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Personne n'est parti. On a même beaucoup de gens qui nous ont rejoints en cours de parcours et qui continuent à le faire. Regardez, par contre, on a passé une grande partie de cette campagne à commenter ceux qui partaient de tel parti pour aller vers tel autre, etc. Nous, on est les seuls à être restés attractifs où non seulement personne ne nous a quittés, mais on nous a rejoints.
Il y a eu quelques
à
l'Assemblée nationale, mais il n'y en a pas eu énormément.
Pendant la campagne, personne...
Vous serez candidate aux législatives ?
Moi, je n'enjambe pas l'élection présidentielle. Donc moi, je considère que mon travail aujourd'hui, c'est de faire que le président de la République soit réélu.
Merci, Aurore Berger était l'invité de Sud Radio.
Et à 9h15, Jean-Paul Garraud sera avec nous, député européen Rassemblement National et porte-parole de Marine Le Pen. Et en attendant, juste après 8h30, la suite du Grand Matin, tout de suite.